les ondes de Mista. Mista, c'est un sobriquet, en même temps un mystère. Les ondes mystérieuses, c'est-à-dire les ondes mystérieuses du voyage. Mon émission va traiter les sujets liés à l'asile et l'immigration. Les ondes de Mista. On y va. Bonsoir chers auditeurs, bonsoir chères auditrices, bienvenue dans votre émission où nous allons nous focaliser sur l'exposition photographique intitulée « Les autres par les autres » qui a eu lieu le 1er février 2020 dans le 93 Son à Pantin en Île-de-France, laquelle exposition a été organisée par 6 jeunes étudiants de l'ICAR, École du Management, de la Culture et du Marché de l'Art. C'est quand même assez surprenant et intéressant de constater que des jeunes étudiants focalisent leur regard sur la thématique liée aux migrants. Pourquoi ? Vous en saurez plus tout à l'heure. L'émission a pour thème « Parler des autres aux autres » et nous avons le plaisir de recevoir Lucie Samarcelli, l'une parmi les organisateurs. Bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue dans cette émission. Vous êtes étudiante à l'ICAR et qui faites-vous ?
Alors, on étudie, on est en ingénierie culturelle, on étudie le management culturel, comment organiser un projet, comment organiser un projet culturel, c'est ça. Et là, on a eu, dans le cadre de notre master, on devait organiser un projet. On a su en octobre qu'on avait un projet libre à organiser pour janvier, en fait. Et du coup, on était complètement libre. On devait choisir le thème, on devait choisir si c'était de la musique, si on voulait faire du spectacle vivant, si on voulait faire une exposition. Donc nous, on a choisi de faire une exposition photo sur le thème des exilés.
Et pourquoi des exilés ?
Parce que c'était une période où les camps étaient démantelés, certains camps étaient démantelés. Il me semble que c'était pas Aubervilliers, mais un autre.
La Chapelle ?
Je crois que c'était La Chapelle. Et moi, j'ai vécu dans le 18e en plus, donc j'ai été vraiment confrontée à ça plusieurs fois. Enfin, tous les jours pendant toute l'année dernière. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous touchait. Et on avait l'impression, on se disait, donc les camps sont démantelés, mais où vont aller ces personnes ? Et on a commencé à s'intéresser à demander aux associations, et puis on a fini par se concentrer un petit peu plus sur l'hébergement. Le fait que ces associations proposent des prises en charge pour les hébergements d'urgence, etc. Et on s'est concentré un peu plus là-dessus. On voulait justement leur trouver de nouveaux hébergeurs, en fait, trouver de nouveaux hébergeurs aux associations. Voilà.
Ça vous a pris combien de temps comme ça, le temps de réaliser ce projet ?
Alors, on a mis beaucoup de temps à trouver le lieu, malheureusement, mais sinon ça aurait pu aller plus rapidement. On a trouvé notre lieu qu'en décembre, donc après on a eu 2 mois pour être vraiment, pour trouver les photographes, donc on a mis 2 mois à réaliser l'événement, vraiment, à partir du moment où on a eu lieu, qu'on a trouvé les photographes. On avait déjà pris contact avec les associations, mais du coup on les a rencontrés vraiment, et puis on a commencé à parler, et ils nous ont expliqué qu'il fallait trouver une espèce de, un sujet un peu plus précis pour la table ronde que juste l'exil, les exilés. Et c'est là qu'on a pensé qu'on allait juste parler qu'on allait essayer de déconstruire les clichés, essayer de présenter en fait tous les protagonistes, donc les associations, les bénévoles, les professionnels qui travaillent avec les associations et les hébergeurs et les exilés, donc mineurs ou majeurs. Et on s'est dit qu'en les présentant, peut-être qu'on ferait tomber quelques clichés, quelques barrières, et que les gens, du coup, auraient peut-être moins de mal à se consacrer à la cause et à donner de leur temps. C'était ça.
Et les résultats attendus, donc vous attendez quand même certainement ce jour-là, le 1er février, qu'il y ait beaucoup plus de monde qui se présente pour voir les photos et pour assister à la table ronde. Est-ce que le résultat attendu est satisfaisant selon vous ?
Alors non, parce que justement, on a été un peu pris de court, puisqu'on était un peu les derniers à trouver notre lieu par rapport aux autres groupes de l'école. Et du coup, c'est vrai qu'on a pêché sur la communication. On en a fait beaucoup moins que ce qu'on aurait dû faire. On a juste créé l'événement, on a au Doc B, donc c'est le Doc B qui, On comptait en fait sur le Dog Bay et sa notoriété pour que les gens soient au courant de l'événement et s'intéressent et viennent. Mais c'est vrai qu'on n'a pas, assez communiqué sur l'événement et du coup il n'y a pas eu assez de monde. Et du coup je ne suis pas sûre qu'on leur ait vraiment trouvé des hébergeurs. Mais la table ronde était quand même très très intéressante et il s'est quand même passé quelque chose autour de... Pendant qu'on parlait, Espérance de Timmy me disait qu'elle voit rarement les jeunes prendre la parole et que donc là, il s'était senti assez en confiance pour prendre la parole devant tout le monde. Et c'est vrai qu'on a eu des témoignages assez touchants. Donc j'espère que même le peu de gens qui étaient là, même si c'était nos proches, etc., j'espère que même eux se seront sentis un petit peu plus touchés par le sujet, concernés. Et que aussi du coup pourront peut-être donner de leur temps, puisqu'on a bien vu que c'était pas seulement héberger ou donner de l'argent, mais même c'est des jeunes ou pas des jeunes, juste des étrangers qui ont besoin de rencontrer du monde et puis des gens à qui ils peuvent faire confiance pour se sentir un minimum entouré dans un endroit où qu'ils connaissent pas, où les démarches prennent du temps, où les prises en charge prennent du temps. C'est vrai que ça fait toujours du bien d'avoir ne serait-ce que des amis, des gens à qui parler, qui sont en plus d'ici et qui du coup peuvent aider quoi, pour des questions toutes bêtes. Voilà. Donc je pense que moi-même, j'ai rencontré des exilés ce jour-là. On en a rencontré, je leur ai fait rencontrer mes cousins, etc. Il y en a un qui adore le foot, donc on a décidé, comme il habitait pas loin de la maison, qu'il viendrait voir des matchs. Des petits trucs comme ça où c'est tout con, mais pour eux, ça... A priori, pour eux, c'est important. Donc, ça peut, voilà.
Et vous avez à peu près quel âge, vous, les organisateurs ?
Moi, j'ai 24 ans, mais les autres ont entre 20 et 22.
Une fois confronté à la réalité concernant la crise de l'accueil des migrants, à travers ce que vous avez entendu au cours de la table ronde, est-ce que ça a modifié votre façon d'entendre parler des migrants ou pas ?
Bah évidemment, et c'est justement, quand on disait casser les barrières, déconstruire les clichés, ça commençait par nous, puisque nous, on était témoins, mais de loin de tout ça. Et en fait, le fait de du coup rencontrer des associations, on a rencontré un majeur exilé qui est arrivé en 2015 et qui avait été pris en charge assez rapidement. Il a 30 ans, c'est le seul majeur qu'on ait rencontré. Et après, on a rencontré que des mineurs exilés. Mais rien qu'à partir de ça, nous aussi, ça nous a permis de déconstruire nos propres a priori, de changer d'avis, même de comprendre exactement ce qu'il y a de terrible vraiment dans leur situation. Donc, de comprendre un peu plus mieux à quelle démarche ils sont confrontés, on a été les premiers en fait à pouvoir faire tomber les barrières grâce à la mise en place de ce projet.
Voilà. Et nous allons à présent marquer une pause musicale.
Dans l'habitation là-bas, calbasse dans ton lit, l'esquivant. pour faire nous bon. C'est ça la musique, fais mon contents enfants. Maman, y'a ma zine, l'époque s'en fait dans. C'est ça la musique, fais moi pousser. C'est ça la musique, pourquoi faire moi danser. Qui nous pousse en d'accord, nous en nous romance. Qui nous pousse dans son bas, nous voit que danse. Ah, ça la musique, fais moi pleurer. Et que la contentement qui nous réveille.
Alors Lucie, les autres, par les autres, pour les autres, on peut ainsi dire, vous avez joué sur le mot autre, autre, autre. Est-ce que vous pouvez clairement définir qui sont les autres, autres et autres, sans parler des uns ?
Alors, en fait, les autres, c'est tout le monde. C'est ça qu'on voulait faire comprendre aux gens, c'est qu'on est tous les autres. C'est que voilà, on voulait faire cette exposition pour les autres, donc le public. Par les autres, c'est nous les autres, c'était nous les six. Et pour les autres, donc les exilés en l'occurrence. Mais c'était vraiment pour remettre tout le monde sur un pied d'égalité et pour que les gens viennent vraiment dans un esprit de rencontre, de partage, mais pas nécessairement de pitié, qu'ils aient pas l'impression que ça leur confère une force supérieure, le fait de pouvoir aider, mais juste qu'ils soient là et qu'ils comprennent que c'est, en fait, à la base, c'est vraiment un échange, c'est des rencontres, vraiment, c'est une aventure humaine. Il y a énormément pendant la table ronde, de professionnels et de bénévoles qui disaient que c'était avant tout une aventure humaine, et c'est vraiment ce qu'on voulait retranscrire là-dedans, par les autres, pour les autres, c'est qu'en fait, on est tous des êtres humains et qu'avant tout, c'est une rencontre d'un humain, par un humain. C'était vraiment ça, remettre tout le monde sur un pied d'égalité. Voilà, c'était là-dedans qu'on entendait les autres pour les autres. Parce que beaucoup pensent que c'est une bonne action ou un devoir citoyen, mais au-delà d'un devoir citoyen, c'est vraiment une question d'humanité, en fin de compte.
Voilà. Et puis, au cours de la table ronde, il y a eu des jeunes qui n'ont pas été reconnus mineurs, majeurs non plus. Donc, ils n'ont ni bénéficié de la minorité, ni de leur majorité, et qui ont eu à prendre la parole et expliquer leur situation. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous, personnellement ?
Eh bien, en plus, ça m'a touchée beaucoup. Et, comment dire, même en préparant, on était du coup de plus en plus au courant de leur situation, mais on ne les avait jamais entendus en parler. Et c'est vrai qu'il y a des choses dont on ne se doutait même pas. Par exemple, il y a un jeune qui a pris la parole et qui expliquait qu'il avait un cancer.
Oui, une tumeur. Oui.
Une tumeur. Bah, rien que ça, c'est des trucs auxquels je n'avais même pas pensé. Mais en effet, ils ne sont pas tous au-delà du fait que leurs conditions de vie ici soient misérables. Il y a en plus des gens qui peuvent avoir des complications, il y a en plus des complications de santé, il y a en plus des... Donc, ouais, on se rend compte qu'il y a encore plus de choses qui nous échappent que ce qu'on pensait, et puis quand c'est eux qui en parlent directement, ils ont cette façon en plus d'être tellement humbles quand ils en parlent, que du coup, ça bouleverse encore plus que quand des gens de l'association en parlent, etc., quand c'est eux avec cette humilité, ouais, ça touche encore plus, ça donne encore plus envie de faire quelque chose.
Nous allons revivre ce qu'a été les deux moments forts de cet événement culturel, l'exposition et table ronde par la TIMI, basée à Paris, une association qui aide les mineurs isolés, étrangers, non accompagnés.
Bonsoir, donc Colline Chouet, vice-présidente de la TIMI depuis 3 ans maintenant, la TIMI qui s'occupe de mineurs isolés et exilés en France. Une des grosses priorités de la TIMI, c'est surtout de communiquer sur la situation des mineurs en France aujourd'hui. Donc participer à ce type d'intervention, c'est une priorité parce qu'il y a nos actions sur le terrain. Mais le plus grand travail qu'on a à faire aujourd'hui, c'est communiquer sur la situation des mineurs en France. Ce type d'événement est impératif pour nous, le fait d'avoir des jeunes étudiants qui soient prêts à communiquer sur ce type de situation. On, on trouve ça hyper important. Et c'est génial de voir qu'il y a des jeunes justement qui soient touchés, qui soient engagés et qui aient le courage surtout de communiquer sur ça, parce que c'est pas évident, c'est très controversé. Donc au contraire, on est très fiers de pouvoir soutenir ce type d'initiative. Je vais juste définir un petit peu pourquoi on a besoin d'héberger ces jeunes, pourquoi on essaye d'héberger ces jeunes. En fait, un jeune, quand il arrive en France, doit prouver sa minorité. Aujourd'hui, 7 jeunes sur 10 se voient refuser cette reconnaissance de leur minorité. Donc à ce point-là, ils se retrouvent laissés à la rue sans aucun moyen, donc sans hébergement, sans suivi administratif ou juridique, sans suivi scolaire ou sur leur santé. Donc on intervient à ce moment-là. C'est des périodes qui peuvent durer plusieurs mois pendant lesquelles ils contestent en fait ce refus de leur reconnaissance de la minorité auprès du tribunal des enfants. Et c'est une période pendant laquelle ils peuvent se retrouver à la rue pendant plusieurs mois. Donc nous, on intervient à ce moment-là. Donc on fait du suivi juridique administratif et dans la mesure du possible de l'hébergement solidaire. Hébergement solidaire, ça veut dire que quelqu'un comme vous et moi va accueillir un jeune chez lui, chez elle, au sein de sa maison pendant quelques jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. On trouve des gens de confiance avec qui on a un accord moral. Les jeunes ont d'ailleurs un accord moral avec nous aussi. Et les jeunes se retrouvent accueillis pendant ces gens-là. Ils tournent d'hébergeur en hébergeur pendant la période de leur recours parce qu'on leur promet de jamais les remettre à la rue une fois qu'on commence à les héberger. L'effet marquant, il n'y a eu que de la déception en fait. Que de la déception, rien n'avance. Ça empire au contraire. Que ce soit des jeunes ou des majeurs, ils continuent à arriver en France. La situation se détériore. On voit que les campements grandissent et les campements sont rasés au fur et à mesure, mais les gens reviennent faute de moyens. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Il y a un manque de reconnaissance de cette situation, alors que ce soit pour les mineurs ou pour les majeurs, hein, d'ailleurs. Hein, la France a tout à fait les moyens d'accueillir ces gens dignement. Et aujourd'hui, elle ne prend pas ses responsabilités. Elle laisse des associations comme la nôtre qui, en fait, ne devraient pas exister. On aimerait ne pas être là, on préférerait ne pas être là, d'ailleurs. Et on ne devrait pas être là. Et comme l'a été dit aujourd'hui pendant la conférence, la dernière chose qu'on souhaite faire, c'est se soustraire, en fait, à l'État. On le fait aujourd'hui parce que, humainement, ça nous paraît impensable de laisser des gens dans cette situation-là. Et d'ailleurs, quelquefois, ça nous est reproché de faire ça. Quelquefois, on nous dit on devrait laisser l'État prendre ses responsabilités. Mais l'État ne le fait pas. Et quand on est devant le fait accompli, en tant qu'être humain, on ne peut pas laisser ce genre de situation-là comme ça. Bah là, je pense que la plus grande des projections, c'est continuer à participer à des journées comme celle-ci, avoir une voix de plus en plus forte, communiquer de plus en plus. Je pense que les associations ont tendance un petit peu à s'enfouir dans leur travail du jour le jour, dans les actions du jour le jour. Et malheureusement, on ne prend pas le temps ni on ne trouve pas la force de communiquer. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut communiquer d'autant plus, il faut aller plus haut. Il ne faut pas seulement rester sur le terrain, il faut faire appel à l'État, il faut faire appel au gouvernement, et c'est là qu'il faut taper, et c'est eux qu'il faut aller voir en direct, et c'est devant eux qu'il faut aller et leur faire assumer leurs responsabilités. Et le plus gros travail aujourd'hui, il est là.
Lucie Colline Chouet, vice-présidente de la TIMI, qui vient de parler tout à l'heure, a brossé le tableau sombre de ces jeunes. Et en suivant aussi ce qu'on vient de dire tout à l'heure avant l'interview avec vous, en parlant de leur situation, vous avez dit que vous êtes écœurée de constater que ces jeunes, en quelque sorte, sont abandonnés à leur triste sort. Alors aujourd'hui, quel message pouvez-vous lancer vous-même en tant que jeune ?
Bah, simplement que ça coûte rien en fait de s'intéresser. C'est quelque chose qui va pas s'arrêter, les crises migratoires, etc. Ça va continuer. C'est juste arrêter de constater, devenir acteur tout simplement pour changer les choses, pour espérer que petit à petit, si on est de plus en plus de jeunes à s'en rendre compte, à essayer de faire quelque chose, Nous, on est les jeunes d'aujourd'hui, mais on sera les vieux de demain. Et justement, ben, ça veut dire que petit à petit, grâce à nous, ça deviendra normal en fait, de ne pas laisser ces gens-là à leur propre sort et d'aider. Petit à petit, ça rentrera dans les mœurs, il y aura de plus en plus de gens. Mais ça, pour ça, il faut que ce soit quelque chose qui vienne certes des adultes, mais qui vienne aussi en grande partie des jeunes, puisque c'est nous qui faisons avancer, tout simplement. C'est nous les prochains. Donc, et puis, voilà, juste que les gens se mobilisent un petit peu plus. Et encore une fois, il y en a qui disent « Oui, mais moi, j'ai pas d'argent à donner. » Mais c'est même pas que de l'argent, c'est du temps, tout simplement. Et on a tous du temps à donner, en vérité. On a tous du temps à donner. Et puis même, moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est que c'est dans un... On est au 21e siècle, les gens adorent voyager, adorent découvrir le monde, etc. Mais ça commence par ça, en fait, découvrir le monde. Ça commence par aller aider celui qui vient d'Afrique et qui est venu ici pour espérer un avenir meilleur. Ça commence par aller vers lui, apprendre de lui, apprendre de... Enfin, voilà, ça, c'est aussi faire un voyage. Et ce que je trouve assez incroyable, c'est que les gens bougent autant, mais qu'après, ils ne s'intéressent pas à ce qu'il y a à portée de main, en fait, de plus à portée de main. Donc, en fait, comprendre que ce n'est pas seulement pour les exilés, mais qu'on peut trouver aussi pour soi, enfin que ça peut être intéressant pour soi, c'est quelque chose, c'est, comment dire, c'est un peu du donnant-donnant, mine de rien. Fin.
Et cette exposition, comme vous l'avez dit, s'inscrit dans le cadre de votre projet du master. Est-ce que vous allez continuer cette idée-là ou ça s'arrête juste pour l'école et puis point barre?
Alors non, justement, nous, avec mon copain, on a trouvé que... Ben, on n'était pas au courant, justement, de comment se passait l'hébergement. On ne savait pas qu'on pouvait héberger pour 2-3 jours, qu'on pouvait... Enfin, on ne savait pas. Et donc là, avec Timmy, j'avoue que j'aurais peut-être été moins emballée d'héberger des majeurs, peut-être eu un petit peu plus peur, mais là... héberger des mineurs avec mon copain, c'est quelque chose qu'on va faire parce qu'on a un canapé-lit et une chambre et qu'on s'est rendu compte qu'en fait, bah, c'est, enfin, oui, ce que je vous disais, une aventure humaine, des rencontres. Nous qui avons tant envie d'aller voir le monde, bah, ça commence par là. Et donc oui, nous, on a déjà fait les démarches pour devenir hébergeur d'urgence solidaire. Donc ce serait pour héberger 2-3 nuits des jeunes qui viennent d'être récupérés à la rue ou qui viennent d'être pris en charge par l'association. Voilà, faire partie du truc qu'on... On veut héberger. Après, mes autres amis, je sais que j'ai une des autres filles qui a fait avec nous, Morgane, qui elle aussi aimerait devenir hébergeur. Et elle nous a proposé, Espérance, à tous de venir, comme elle a nos numéros, ils se rejoignent tous les dimanches. Elle nous a proposé de nous envoyer les adresses le samedi pour qu'on les rejoigne le dimanche, ne serait-ce que pour venir passer du temps avec eux sans même s'engager vraiment dans l'association. Mais rien que ça, je sais que mes amis avaient très envie de le faire aussi. Voilà. Mais moi, oui, je vais devenir hébergeuse. Ouais, refaire d'autres expositions sous d'autres formes, d'autres artistes. Il y a énormément d'artistes exilés, il y a énormément de gens qui parlent de ces sujets-là, en vérité. Donc, pourquoi pas, oui, continuer. Je veux dire, c'est pas, on n'a pas décidé de faire ça juste pour l'école. Ça va continuer après.
Est-ce que vous avez aussi envie un jour de suivre le parcours d'un migrant, c'est-à-dire son parcours administratif, le suivre pour connaître au fait comment est-ce que ça se passe sur le terrain? Parce que écouter, c'est autre chose, lire, c'est autre chose, suivre à travers les médias aussi, c'en est une autre.
Oui, et c'est vrai que là, justement, je trouve aussi avec le peu de temps qu'on a eu, on ne sait pas exactement quelles sont les démarches. On sait que ça prend du temps. On a bien compris un peu dans le gros, mais c'est vrai que je ne sais pas exactement. Donc oui, ça serait super intéressant de suivre un migrant juste pour savoir exactement à quoi il est confronté et même moi, pouvoir en parler mieux autour de moi et pouvoir aider mieux. Enfin oui, évidemment. Puis parce que les trucs administratifs, c'est des choses qui les bloquent. Enfin, comment dire, c'est des choses qui vont être parfois compliquées, alors que nous, c'est des trucs, je veux dire... Ma mère, qui, je sais très bien, qui par exemple, elle a une entreprise, donc les trucs administratifs, ça la connaît. Bah, elle, par exemple, c'est limite sa routine. Donc je sais qu'en fait, elle pourrait très bien venir, ne serait-ce que donner de son temps, m'expliquer. Moi, j'expliquerai après. C'est des trucs. Il n'y a pas besoin d'être assistante sociale, en fait, pour faire ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'il faut être au courant. Donc oui, ça aurait été intéressant de les suivre plus et d'avoir vraiment affaire à toutes les étapes de leur insertion et de leur prise en charge.
Vous êtes si jeune à organiser cette exposition. Est-ce que vous six partagez-vous la même vision sur la thématique liée à l'immigration ?
Oui, si on est là-dessus, on était quand même, on avait la même vision, ouais. Après, c'est une vision très, très enfantine quand même. C'était un peu, ça se fait pas, c'est pas juste. Et on a essayé un maximum de se renseigner, mais c'est vrai qu'on pêche encore, je vous dis. Hein, plein de choses qu'on sait pas encore, mais on a la même vision. On a la même vision d'injustice, on a la même vision de... Tout simplement, on comprend pas, en fait, que ce soit possible dans un pays comme la France, que ce soit possible que l'État ne fasse strictement rien. On comprend pas. Enfin, moi, je comprends pas cette espèce de poisson qui se mord la queue, de l'Europe qui met ses populations dans des situations telles qu'ils sont obligés de quitter, de partir de chez eux, mais qui après refuse de leur donner une aide en faisant comme si... Ça nous choque. Et en fait, c'est vraiment représentatif un peu du monde dans lequel on vit aujourd'hui et de tout ce qu'on n'aime pas et ce qui nous choque actuellement. Mais on avait tous la même vision.
La musique adoucit les mœurs, et bien nous allons écouter un morceau de la musique.
Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di cotone profumo. Col fazzoletto ti nasconderei dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei e con la mano che non veda nessuno e con la mano ti accarezzerei. Salirà il sole del mezzogiorno, passerà alto sopra di noi fino alla tasca del pomeriggio. Ti porto ancora se anche ora mi vuoi. Salirà il sole del mezzogiorno e passerà alto molto sopra di noi fino alla tasca del pomeriggio. Dall'altra tasca ti porto se vuoi. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di seta e profumo, col fazzoletto ti coprirei. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei e con la mano che non veda nessuno e con la mano ti saluterei. Che non veda nessuno con questa mano. Ti saluterei.
Lucie, on a vu des belles images, des belles photos qui ont été exposées. Et qui ou combien de photographes ont eu à prendre ces images et ça a été pris où ?
Alors, on avait trois photographes. Il y avait le premier, celui qui avait dont on exposait le plus de photos, c'est... Il s'appelle l'Instable Photographie sur Instagram. C'est son nom de photographe. Lui, il travaille en fait d'une manière plus générale sur les populations exclues de la société à Paris. C'est un Parisien. Il a grandi dans le 18e. Donc, enfin, voilà. Il a fait pas mal de reportages, si vous voulez, photos sur. Sur les blocs, les gens bas des blocs, sur les sans-abri, et il reverse une partie à chaque fois de ce qu'il gagne à des associations où il achète beaucoup de kits hygiène pour les sans-abri. Et donc il travaille aussi pour il travaille pas pour des journaux, mais il arrive que des journaux, des magazines demandent de publier ses photos. Et donc c'est vrai que comme c'est un sujet qui est beaucoup dans les médias, les exilés, les réfugiés, évidemment, on lui avait demandé déjà de prendre des photos. Il était parti à Calais. Donc, il y a des photos qui sont exposées, qui sont des photos prises à Calais. Et il y avait des photos qui étaient des photos juste parisiennes dans les camps. Il y en a une, on voit que c'est entre Stalingrad et Jaurès. Une qui était avec celle avec l'affiche de Coluche. Ça, c'est dans Paris. Donc, lui, il a pris un peu un peu à Paris, un peu à Calais, mais c'était jamais, ça faisait jamais partie de série en fait. C'est vraiment, il a pris des photos. Donc là, on a plusieurs photos de différentes séries qui n'avaient jamais encore été exposées ni publiées. Et le deuxième photographe qu'on a publié, qu'on a exposé, c'était Ulysse Gutmann. C'est Ulysse Gutmann, c'est un étudiant à la Sorbonne. Qui est un étudiant assez engagé, qui lui aussi prend des photos, là les photos qu'on a exposées, elles étaient déjà parues, elles avaient déjà été exposées à l'ambassade de Grèce, parce que c'est des photos qu'il a prises en Grèce sur l'île de Lesbos, qui est l'île des réfugiés. Il les avait prises en 2018, pendant l'été 2018, parce qu'il allait faire un voyage là-bas, et on n'en a récupéré malheureusement que deux, parce que les impressions coûtent cher et qu'on a tout pris à nos frais. Mais on a récupéré que deux de ses photos, mais il y en avait des très très jolies, d'autres très jolies. Donc lui, c'était vraiment en Grèce, mais on trouvait que comme c'est quelque chose qui de toute façon touche l'Europe, touche le monde, c'était pas dérangeant d'avoir des photos qui venaient d'ailleurs. Et le troisième photographe, c'est Antoine de France, qui faisait partie de ceux qui organisaient l'exposition. On a rencontré Louis Amadou, on est allé prendre un café avec lui. Et Antoine l'a pris en photo pendant qu'on discutait. Il savait qu'il venait nous rencontrer pour qu'on fasse son portrait et pour qu'on le prenne en photo. Et donc voilà, c'était vachement sympa. Il a 30 ans, donc il était plus âgé que les jeunes qui étaient présents le jour J. Mais il nous expliquait donc juste lui comment ça s'est passé. On voulait vraiment pas parler du passé de ces gens, puisque c'est quelque chose auquel ils sont confrontés super souvent. On leur demande tout le temps comment ils sont arrivés, comment c'était, et on voulait pas cette espèce de curiosité malsaine de ce qu'ils ont vécu avant. On voulait vraiment qu'ils nous parlent de maintenant, depuis que t'es en France, depuis que t'es ici, comment ça s'est passé pour toi, qu'est-ce que t'aimerais faire, tout simplement, pour encore une fois remettre sur un pied d'égalité nous visiteurs et eux réfugiés, pour faire sortir ça d'une mention humaine. On lui a demandé ce qu'il voulait faire plus tard, ce qu'il aimait faire tout court dans la vie, pour que les gens se rendent compte que c'est juste des gens comme vous et moi, ils sont juste nés malheureusement au mauvais endroit et voilà. Mais bon, il a les mêmes aspirations que nous, il aime faire du basket, il aime danser, il aime sortir, un jeune de 30 ans lambda. Et voilà, c'est ce qu'on voulait. Et puis c'était sympa de le rencontrer. On est déçus qu'il n'ait pas pu venir le jour J. Mais... Voilà.
Et votre projet est un bel exercice aussi pour vous. Et si dans l'avenir, vous voulez réorganiser une telle exposition, que comptez-vous changer ou améliorer pour que cet événement soit beaucoup plus participatif?
Déjà, ce qui marche énormément de nos jours, en vrai, si on veut rameuter du monde, faire marcher, mais ça marche comme ça même dans le commerce, il faut faire énormément de marketing, de communication, c'est ce qui a pêché là. Donc évidemment que si on refait un événement, on fera de la communication à fond, et ensuite peut-être avoir une période plus longue, une année où on suit des gens pendant toute l'année pour avoir vraiment, pour avoir vécu le truc de l'intérieur et pour savoir vraiment de quoi on parle, parce que là on sent encore que Malgré toute notre bonne volonté, on n'est pas encore complètement, on ne sait pas encore complètement de quoi on parle. Et donc c'est pour ça, comme on va continuer à voir Timmy, à aller voir les jeunes de Timmy, etc. Peut-être devenir un peu plus pro sur la question et là faire des événements où on saura vraiment de quoi on parle et mettre peut-être plus de choses en place pour. Là on n'a pas eu le temps, mais faire par exemple vendre les œuvres. Pour les associations directement, ça c'est un truc qu'on n'a pas pu faire, mais l'Instable va vendre ses œuvres et va récupérer l'argent, mais ça n'ira pas pour les réfugiés, ça ira pour acheter encore des kits de survie pour les gens dehors. Mais bon, voilà. Mais peut-être, faire quelque chose où on aurait directement, je sais pas, on pourrait récolter directement de l'argent, ou récolter directement des signatures, je sais pas exactement, mais un truc un peu plus, un petit peu plus professionnel du coup, un peu moins scolaire.
Et nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission. Avez-vous un dernier mot?
J'encourage du coup vos auditeurs à aller se renseigner, à aller voir les sites Utopia 56, Timmy et Réfugiés Bienvenus, qui étaient les principales associations qui ont travaillé avec nous. Qu'ils aillent se renseigner et qu'ils aillent voir ce qu'il est possible de faire, eux, ne serait-ce que si, par exemple, ils ont toujours besoin de juristes, d'avocats, de psychologues. Si les gens ont envie de donner de leur temps... qu'ils aillent se renseigner.
Parler des autres aux autres est le thème que nous avons eu à débattre tout à l'heure avec Lucie Samarcelli, qui est étudiante à l'ICA et aussi fait partie de l'organisation de l'exposition, de la belle exposition culturelle qui a eu lieu le 1er février dernier. Merci infiniment, Lucie, d'avoir été notre invitée.
Merci à vous.
Et à vous, chers auditeurs et auditrices de la radio Valamulcien, merci infiniment de nous avoir écoutés, espérant vous retrouver dans les prochains jours. Portez-vous bien. Les ondes de Mista. Mista, c'est un sobriquet, en même temps un mystère. Les ondes mystérieuses, c'est-à-dire les ondes mystérieuses du voyage. Mon émission va traiter les sujets liés à l'asile et l'immigration. Les ondes de Mista.